Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est deux bonnes nouvelles. Un, vous n'êtes pas sourd et deux, vous êtes en train d'écouter AI en compagnie de notre partenaire et ami Olivier Vigneault, président de BETC Digital.
Bonjour.
Qui nous revient du pays des cow-boys. De Félix Barrès, notre Clark Kent historique.
Bonjour.
Et d'un invité, Christophe.
Bonjour.
Dont je vous révélerai l'identité plus tard, et ceci afin de freiner un peu votre soif de zap. Le sujet du jour étant...
Les enseignements du festival South by Southwest sur la sécurisation des données personnelles.
South by Southwest est un ensemble de festivals de musique, de cinéma et de médias interactifs se tenant chaque année depuis 1987 au mois de mars à Austin, principalement au Austin Convention Center.
Mais tout d'abord, un peu de pub futuriste. Mais pas que.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à la Data House.
On ne se sent plus chez nous nulle part.
N'importe qui entre, n'importe quand, on n'a plus de vie privée.
Même toi, tu ne peux pas nous protéger.
Et oui, chaque jour, en faisant vos courses, en cherchant des informations ou des services, vous dispersez vos données personnelles et bientôt, vous n'aurez peut-être plus rien de personnel.
J'ai même donné mon ADN et maintenant, j'ai peur qu'ils en fassent n'importe quoi ou n'importe qui.
Heureusement, il y a la Data House. La Data House, c'est une maison rien que pour vos données, avec tout le confort et surtout la sécurité.
Une vraie maison ? Avec une porte qui ferme à clé ?
Oui, et c'est vous qui en contrôlez l'accès.
Avec la Data House, on n'est plus envahi.
En plus, on choisit nos invités et nos amis.
Alors vite, vous aussi, mettez vos données à l'abri dans votre Data House.
Voulez-vous en savoir plus ?
Alors, Olivier, est-ce que ce que nous venons d'entendre... est crédible.
Alors déjà, je trouve que ça fait assez envie de se protéger comme ça de manière beaucoup plus sûre. Et de retour du festival South by Southwest, j'ai envie de vous dire que si c'est pas crédible, c'est un projet qui est devenu assez précis, puisque c'est le projet dont a parlé là-bas Tim Berners-Lee. Le projet s'appelle Solid.
Solid.
Oui, il considère que le web aujourd'hui ne correspond pas du tout à l'idéologie de départ. Ce qu'il dit, le web est devenu très concentré, alors que c'était une idéologie justement du partage de l'information, et le lien hypertexte, c'est finalement l'idée même de la toile et du réseau. Et aujourd'hui, on a concentré le pouvoir auprès de quelques grands acteurs qui sont essentiellement les GAFAM. Donc il dit, il faut changer ça, il faut complètement transformer la manière dont on gère sa data. Et donc c'est ce que j'ai compris de la publicité que nous venons d'entendre, c'est de doter les gens de ce qu'il appelle des datapods, c'est-à-dire comme une sorte de mini cloud personnel dans lequel on gère ses propres données et qu'on décide d'ouvrir ou non aux différents prestataires selon les besoins qu'on a. Donc la donnée n'est pas dans un cloud ailleurs entre les mains de Google, entre les mains de Facebook, d'Amazon, etc. Mais la donnée reste la mienne et c'est moi qui décide de l'ouvrir en fonction de mes besoins aux différents prestataires.
Christophe Bis, vous êtes notre invité.
Christophe Bis est journaliste, grand reporter à l'usine digitale.
Vous avez la parole.
Oui. Non, mais ce que je me demandais, c'est une fois que là, avec cette espèce de petit coffre-fort où on met ses données personnelles qu'on donne au coup par coup, est-ce qu'une fois qu'on les a données à une entreprise, elle peut les garder ou est-ce qu'on les récupère après à chaque fois ?
Alors, ce que dit Tim Berners-Lee, c'est que c'est vraiment totalement maîtrisé et donc... on ne les donne que le temps utile et ensuite on les récupère et en tout cas l'application en question n'en a pas l'usage. Et donc ça soulève des questions parce que ça soulève la question du financement qui est assez compliqué parce qu'aujourd'hui finalement le fait de ne pas maîtriser sa data fait que cette data a une valeur et que les Google et Amazon commercialisent cette data et donc la publicité nous permet d'avoir le service gratuitement. Dans ce monde-là, tel qu'il l'imagine, la publicité ne serait plus le mode de financement. Il faudrait que les gens acceptent de payer pour les services, finalement, puisque leur data ne permettrait pas de les rémunérer.
Alors Olivier, vous revenez du festival South by Southwest. Pouvez-vous nous dire rapidement ce qui s'y passe ?
C'est impossible parce qu'il y a à peu près, je sais pas, un millier de conférences par jour.
Ouais, c'est énorme.
Le programme, j'ai lu que c'était comme le bottin, comme les pages jaunes, quoi.
Oui, en fait, quand on va à ce festival, on rate tout ce festival.
Donc c'est pour ça qu'on n'y va pas.
Une toute petite partie.
Et ça ressemble à quoi, Olivier ?
Ça ressemble à une ville entière, enfin en tout cas un centre-ville entier qui est complètement pris d'assaut par des dizaines de milliers de gens du monde entier. Ils sont beaucoup nord-américains, mais ils viennent quand même du monde entier, qui vont dans ces conférences toute la journée, qui ont lieu dans un convention center, mais aussi dans tous les hôtels environnants. Donc c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de salles de conférences et que simultanément, toutes les heures, ça fait des centaines de speakers, et qui ensuite se retrouvent le soir, boivent des verres et commentent ce qu'ils ont vu la journée.
Et est-ce que l'Asie est représentée ? La Chine ?
Alors ça, c'est intéressant. Ça fait plusieurs années que j'y vais. Et on parlait de la Chine sans qu'aucun représentant chinois ne soit là pendant des années. Et là, pour la première fois, il y avait un petit peu de conférences avec des gens d'Alibaba, avec des représentants, des consultants chinois. Donc j'ai vu quelques conférences super intéressantes. Et ils commencent à parler. Et d'ailleurs, c'est un signal assez fort parce qu'ils commencent à parler de manière assez conquérante, on peut se le dire.
Et le point fort de ce festival, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est la sécurité par exemple qui était vraiment au cœur de cette histoire ou il y avait autre chose ?
Ce que je trouve très fort, c'est qu'on est vraiment à une période de questionnement sur la technologie et le web. C'est-à-dire qu'on est passé d'un enthousiasme sans bornes et l'idée que c'est définitivement le progrès, avec la Silicon Valley en tête et, voilà, et des innovations et la recherche d'innovations et beaucoup d'enthousiasme par rapport à tout ça. Et là, de plus en plus, et particulièrement cette année, c'est le moment des questionnements, c'est le moment de se demander si finalement il ne faut pas un petit peu mettre des freins, si on n'est pas allé trop loin, donc sur la data, sur la toute-puissance des GAFAM, sur la façon dont la technologie envahit notre vie. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est des questions politiques, sociales et qui sortent de simplement la découverte de nouveautés.
Ce sont les détenteurs du web qui en discutent ou est-ce qu'il y a effectivement des politiques, des sociologues, des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec le digital mais qui sont là également ?
Ah non, il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les représentants de toutes les boîtes digitales, mais il y a des politiques. Il y avait Alexandria Ocasio-Cortez qui a fait un triomphe parce que elle est très regardée évidemment et elle a un public acquis.
C'est une figure importante de la gauche un peu radicale américaine.
Ce que je trouve intéressant, c'est que l'écosystème aujourd'hui commence à s'interroger. Est-ce qu'on peut dire qu'il commence à avoir peur que l'exploitation sans frein des données, côté un peu open bar, finisse par casser le business ?
Ah ben oui, ils parlent du business en fait. Ils disent
C'est pas des questions éthiques. Quoi.
Il faut se méfier d'une défiance. Ils sont américains, donc ils parlent quand même beaucoup de business. Et puis après, ils parlent quand même du monde dans lequel on a envie de vivre demain.
Ouais, donc de l'éthique, mais surtout du pognon.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a rien en dehors du pognon et du business. C'est une société basée sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, et donc les questions éthiques sont soulevées dans le cadre de projets privés.
Mais c'est là que, par exemple, la parole de Ocasio-Cortez est intéressante, parce qu'elle, elle dit qu'il faut défendre de manière plus équitable le peuple américain et les petites gens, et alors qu'il n'en est jamais question, justement, parce que c'est toujours le business qui l'emporte. Donc les choses ont l'air de changer.
J'avais lu une phrase de Sébastien Muriot, donc qui est Davos, qui était là-bas et qui a dit que cette année, contrairement aux années précédentes, où il y avait des grands effets d'annonce, peut-être des nouveautés vraiment qui prenaient le dessus, là, il avait vraiment l'impression que c'était ce qu'il appelle le backlash, donc l'espèce de contre-coup de toutes ces technologies, de toutes ces inventions qui prenaient le dessus, cette espèce de respiration, de se dire « mince, il faut qu'on réfléchisse là où on va ». Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi, l'idée qu'on était moins dans l'invention, dans la poudre aux yeux, mais plus dans « il faut qu'on se pose ».
Oui, oui, complètement. C'est vraiment, il y a un discours même anti-tech, donc anti-technologique, qui se développe. L'un des deux fondateurs d'Instagram, Kevin Systrom, a ouvert la conférence en disant « le sentiment anti-tech n'a jamais été aussi fort aux États-Unis qu'en ce moment ». On l'entend dans beaucoup de conférences parce que tout le monde justement dit « ils sont allés trop loin, ils pensent qu'à la toute-puissance maintenant de leurs entreprises et ils oublient un peu l'idéologie du web en fait, l'idéologie du progrès ». Et donc oui, je suis d'accord avec mon ami Sébastien Muriot, on ressent ça, mais ce qu'on ressent aussi c'est que ça c'est une partie du monde, c'est l'Occident qui se dit ça.
et que de l'autre côté, les Chinois arrivent conquérants et disent « Nous, c'est le progrès, on se pose pas de questions, on n'a pas de problème avec l'utilisation de la data individuelle d'ailleurs, parce que de toute façon, ça fait des années que le gouvernement a toutes nos datas, donc on n'est pas gêné par une utilisation abusive, on sait qu'on peut vivre avec ça. » Et eux, ils sont au contraire un peu dans ce qu'on avait il y a quelques années chez les Américains, c'est-à-dire la conquête, c'est-à-dire le progrès, c'est-à-dire le sentiment qu'ils vont changer le monde.
Si je peux ajouter une question, cette édition était très politique et les têtes pensantes de la tech, est-ce que ce sont pas elles les prochains politiciens vraiment, ceux qui vont nous dire voilà comment gouverner un pays, même en France, parce que finalement c'est des enjeux tellement importants.
Regardez, quand on lit toutes les interviews de Zuckerberg, on regarde ses propos comme on regarderait les propos d'un homme politique. Et d'ailleurs, on imaginait qu'il allait pouvoir avoir un destin politique. En fait, ça va être un peu plus compliqué probablement parce qu'il s'est quand même pris quelques gamelles. Mais aujourd'hui, quand il se prononce, quand il a fait sa fameuse lettre pour dire « Voilà, l'avenir de Facebook sera axé sur la confidentialité. » Il dit « Je pense que l'avenir de la communication se tournera de plus en plus vers les services privés cryptés. » C'est une parole politique. C'est une parole sur la manière dont on imagine la société demain. Donc oui, bien sûr.
Et même, on peut voir dans les conférences à quel point justement on a pris conscience que politique et tech étaient liés. Et est-ce que c'est pas depuis l'élection de Trump où on s'est rendu compte que concrètement les technologies, les nouvelles technologies pouvaient faire élire un président?
C'est exactement le point de départ et le constat de Tim Berners-Lee et l'origine du projet Solide.
Je rappellerai qu'on disait la même chose au moment de l'élection d'Obama. Il y a une couverture, je crois, de Time où on dit que Obama a été élu grâce à un logiciel.
Oui. Mais Trump, c'est la première fois qu'on est Trump, pas c'est... content de ce résultat.
Ah, oui, c'est ça. C'est que tant que les techs faisaient élire Obama, les gens étaient contents. Le jour où ça a été Trump, ils ont fait un peu la tête dans la Silicon Valley. Enfin, certains, pas tous.
Et pour aller dans le sens de l'anti-tech, il y a quand même des gens qui font la tech comme Elon Musk, qui vont dire dans ses conférences que c'est dangereux comme l'arme nucléaire, qu'il faut s'en méfier comme des ogives nucléaires.
Quand il parle de l'intelligence artificielle,
ouais.
Notamment lui.
Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est quand même aussi des gens qui ont ce côté un peu bipolaire ou schizophrène, comme on veut, qui développent ça tout en disant c'est super dangereux.
Il y a un côté un peu apprenti sorcier aussi, c'est-à-dire entre les mains, ils ont eu des joujoux incroyables et dont ils ont vu le potentiel. Et puis à un moment donné, en tout cas en ce qui concerne Facebook, ça leur échappe et ils ont du mal. Et pourtant, ils le font à grand renfort de déclarations, mais ils ont du mal à expliquer que c'est un peu plus maîtrisé, en tout cas que leur ambition est que ça le soit plus demain, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ça a des conséquences politiques majeures.
Et l'intelligence artificielle là-dedans, alors?
Bah, il y a Amy Webb, par exemple, qui n'en parle pas du tout de l'intelligence artificielle, mais qui, à la fin de sa conférence, dit « J'en ai pas parlé parce que c'est partout ».
En fait, on utilise aussi de manière un peu abusive le terme d'intelligence artificielle parce qu'il fait rêver, parce que, évidemment, il est chargé, mais c'est beaucoup du machine learning et donc du travail sur des algorithmes, qui effectivement rendent des services dingues, mais enfin, on s'en sert tous les jours, tous, tout le temps. Je ne sais pas, ne serait-ce que le fait de taper sur son téléphone et d'avoir des suggestions de mots qui correspondent à nos usages et ou qui correspondent à des phrases qu'on est susceptible d'écrire, c'est de l'intelligence artificielle, mais il y en a partout.
Mais à quel moment ce machine learning finit un peu par dépasser, là aussi, ses maîtres et dépasser l'usage pour lequel il a été conçu? C'est ça qui nous intéresse.
Bah, c'est ce qu'Elon Musk craint. Il parle de super intelligence artificielle. Il dit qu'on n'en est pas encore là, mais il dit qu'au moment où on en arrivera là, il faudra vraiment qu'on ait mis des moyens de contrôle, parce qu'il explique vraiment que ces super intelligences artificielles nous dépasseront.
Mais alors moi, quand même, j'ai vu pas mal de spécialistes, enfin des gens qui travaillent sur l'IA toute la journée, que ce soit chez Google ou autre, et qui disaient quand même, on n'en est pas du tout là. Donc certes, le fonctionnement des algorithmes n'est pas intelligible à tout le monde, mais finalement, en fait, c'est quand même pas non plus des machines qui pensent, c'est surtout du machine learning qui reproduit des choses, et donc il faut quand même pas non plus s'inquiéter outre mesure. En revanche, ce sur quoi ils alertent toujours, c'est quel est le set de data qu'on utilise. Parce que, une expression que j'ai trouvée intéressante, ils disent, un set de data, on se demande jamais, comme si c'était un truc qui existait comme ça dans l'absolu, quel en est l'auteur. On dit, tiens, qui a écrit ce bouquin, mais on dit pas, tiens, qui a écrit cette base de données? Alors qu'en fait, une base de données a toujours un auteur, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de l'organiser comme ci, comme ça, et de mettre telles et telles infos dedans. Et donc, ça veut dire que si elle a un auteur, il y a une intention. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas en tenir compte, parce qu'on se dit, tiens, ah, vous avez une base de données, mais personne ne nous dit jamais, mais qui a signé cette base et quelle était l'intention derrière, alors qu'elle n'est jamais neutre. Et qu'évidemment, ça, comme c'est de cette donnée-là que se nourrissent les algorithmes,
Bah forcément, si la matière est déjà un peu viciée, le résultat, en conséquence, l'est aussi.
On l'avait vu, par exemple, dans une autre émission sur les problèmes de racisme ou de représentativité des minorités. C'est-à-dire que si effectivement notre base de données elle est faite par un blanc qui vit qu'avec des blancs d'une certaine catégorie sociale et qui estime que c'est ça, le monde,
Non, mais c'est l'histoire de cet acteur de la Silicon Valley qui avait fait appel à une intelligence artificielle pour ses recrutements de tech et qui recrutait plus d'hommes que de femmes parce que l'intelligence artificielle reproduisait les données passées et dans le passé il y avait toujours eu plus d'hommes que de femmes, donc l'intelligence artificielle croyait que les hommes étaient meilleurs que les femmes et si personne contrôle l'intelligence artificielle et bien elle continue, donc c'est pas l'intelligence artificielle qui se trompe, c'est l'homme qui ne contrôle pas.
Nos données individuelles servent par contre, ça on en est sûr, à nourrir ces intelligences artificielles.
C'est le principe même.
C'est leur moteur, c'est leur fuel.
C'est leur fuel, et c'est pour ça que les Chinois déclarent qu'ils vont prendre beaucoup d'avance, parce que comme ils ont accès à beaucoup de données, on en avait déjà parlé, hein, de beaucoup de gens, de façon libre, ça leur permet de progresser. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très intéressant de voir ce qui se passe du côté d'Apple, parce que Apple a décidé aujourd'hui de faire de la protection de la vie privée l'argument massue de ses campagnes de communication. Et si on se souvient, moi j'ai l'impression en fait que c'était un premier acte de communication, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016, quand Apple a refusé de collaborer avec le FBI au moment de l'attentat de San Bernardino en disant, pourtant c'était un attentat, donc normalement on se dit à des moments comme ça, oui tant pis, il faut ouvrir les données, et ils ont dit non, ce n'est pas possible, c'est une ingérence du gouvernement, et on refuse de donner l'accès à l'iPhone des présumés coupables. Je pense que c'était un acte de communication génial, parce que ça commençait à dire, le système Apple est le plus protégé du monde, et même si la police le demande, on refusera toujours de donner l'info. Et aujourd'hui, les campagnes sur l'iPhone sont là-dessus. En ce moment, il y a des campagnes de bannières, même sur le fait qu'on peut, quand on a un iPhone, effacer ses données à distance de façon facile, que les données du visage dans la reconnaissance faciale sur l'iPhone 10 ne sont que des données mathématiques, mais c'est pas l'information, il n'y a aucune photographie du visage qui est transmise à Apple. Enfin, ils communiquent énormément là-dessus, ils font de ça l'argument de leur singularité.
Si nos données personnelles ne vont plus aussi facilement vers ces machine learning, ces systèmes-là, de quoi elles vont se nourrir ?
Mais si, il faut les donner, mais en sachant ce qui en est fait, et surtout en étant en mesure d'arrêter de les donner dès qu'on le souhaite.
On donne ces données, mais on ne sait pas ce qu'on en fait de ces données. C'est là, il y a une espèce de donnant-donnant qui est très déséquilibré. C'est je donne tout et fais-en ce que tu veux, quand on ne connaît pas l'intérieur de ces boîtes noires.
Le problème que je vois à ça, là, quand on en parle, c'est que d'un côté, on donne nos données à des sociétés privées, à des grosses sociétés qui sont censées avoir les moyens de les protéger. De l'autre, on va avoir un espèce de coffre personnel, potentiellement hackable, enfin piratable par des gens qui peuvent rentrer dans nos coffres et avoir tout d'un coup. Là, on est quand même le choix entre être protégé par des sociétés privées à qui on est obligé de faire confiance, mais qui ont sans doute les moyens de protéger et qui sont en lien avec nos gouvernements, ou d'avoir des coffres forts personnels accessibles à des pirates qui sont très nombreux sur le web, notamment en Russie.
C'est pas faux. Je pense que c'est une des grosses limites du projet.
Et ben voilà qui va pas rassurer Monsieur Parano, qui justement se pose des questions de cet ordre.
Oui, pour moi, ce qui fout le plus les jetons, c'est tout ce qui tourne autour de la santé. Ah, on donne tous les renseignements sur son corps et même son ADN. Et j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer au niveau des spams et autres si les gens commencent à vous envoyer des mots du type vu votre ADN, il va vous arriver ceci, ou votre médecin devrait vous donner cela. Je parle même pas des sélections qui peuvent être faites, d'aller dire des choses, je ne sais pas, comme par exemple. Ce type-là n'est pas bon pour mon entreprise, ou des choses comme ça. Donc je trouve que la limite, c'est la santé. Voilà, qui doit vraiment pas s'étaler partout sur la toile, quoi. La santé.
C'est exactement le sujet de Solid, c'est de dire cette donnée-là qui est ultra sensible, évidemment, je vais choisir de la partager avec des autorités médicales parce que c'est bien utile de les partager avec les gens qui peuvent me soigner, mais surtout pas avec mon employeur ou surtout pas avec mon banquier ou mon assureur, etc.
C'est flippant, oui. Est-ce que quand on sort d'un hôpital, on se demande ce qu'on a fait de toutes nos prélèvements. Je veux dire, moi, ce qui m'a fait rire, quand je regardais les vidéos sur le festival, il y avait un don du sang organisé avec Game of Thrones, Blood of Thrones, où il y avait des files entières de gens qui allaient donner leur sang, c'était fait avec la Croix-Rouge. Ok, c'est la Croix-Rouge, mais on donne notre sang. Bah, qu'est-ce qui est fait avec ? Bon, on fait confiance. Les entreprises privées, on leur fait confiance, parce qu'a priori, elles ont pignon sur rue, elles disent ce qu'elles font, elles sont légales. Voilà, c'est on vit là-dedans. De toute façon, Internet nous interroge là-dessus, les nouvelles technologies nous interrogent là-dessus, mais en réalité, encore une fois, on fait confiance et notre corps est déjà livré à plein de gens.
Ça me fait penser à une phrase de Roger McNamee, qui était aussi à Southwest et qui était un des premiers investisseurs de Facebook. Et il parlait en général de toutes les entreprises de la tech et il disait « We're in the business of trust and trust is broken ». Mais je trouve que dire, en fait, on est tous dans le business de la confiance, pour moi, ça résume assez bien l'enjeu, parce que, et c'est vrai aussi pour les marques, l'un des sujets premiers, finalement, de demain, c'est exactement celui-là, c'est à qui vais-je donc pouvoir faire confiance et quels sont les marqueurs d'endroits, d'entreprises, comme finalement je le fais avec un hôpital, à qui je vais pouvoir accepter de donner un peu de moi, parce que je considère que là, quand même, je peux faire confiance.
C'est le numérique, c'est la dématérialisation qui fait peur parce qu'on ne sait pas où ça part, on ne sait pas où c'est stocké. Dans l'hôpital, on a vaguement l'idée du petit bureau où il y a une petite dame qui a rangé un dossier, qui a fermé la porte à clé. Le numérique, à la fois, ça démultiplie la possibilité et ça démultiplie la peur.
Félix, le moment est venu de nous faire un petit historique. À qui appartient notre ADN ?
Bonne question.
L'histoire passionnante et édifiante du biopouvoir.
À qui appartient mon ADN ? C'est la question angoissée qui plonge Amy Webb, la star du South by Southwest Festival, dans un abîme de perplexité à la fin de sa conférence. À qui appartient mon ADN ? Enfin ! Après avoir passé des années à fricoter jour et nuit avec le web et les technologies sans âme, les pros du digital redécouvrent qu'ils ont un corps. Malheureusement, au même moment, ils découvrent que ce corps, beaucoup voudraient leur voler leurs données physiques, avoir du pouvoir sur lui, éventuellement le transformer. Alors ce corps le possède-t-il vraiment ? Désolé, mais la réponse est simple, c'est non et ce n'est pas nouveau. Puisque lorsque le roi décapitait ses sujets, l'ADN des individus et toutes les composantes du corps étaient bien, en dernière analyse, la propriété du souverain. Ce qui est nouveau, en revanche, enfin ça date quand même du 18e siècle, c'est la naissance du biopouvoir. C'est la naissance du biopouvoir. Cette notion, inventée par le philosophe français Michel Foucault, indique que les gouvernants ont décidé de remplacer le contrôle des corps par la force, la peine de mort, l'internement, l'armée, la prison, par le contrôle de la vie, le biopouvoir. Au lieu d'attendre que le corps lui échappe et devoir sanctionner, le pouvoir choisit la régulation a priori. Contrôle des naissances, politique de santé publique, vaccination, régulation des mœurs, imposition de critères d'hygiène, d'alimentation, de sexualité. L'État invente la norme qui marque le pouvoir à tout instant de l'État sur nos corps. Les corps de la population, notamment grâce aux avancées de la médecine et de la science, rentrent dans les cases que le pouvoir a prévues pour eux. Et toutes les nouvelles découvertes technologiques actuelles, les tendances du digital, les dérives du fichage physique ne sont que des prolongements de ce biopouvoir qui nous dépossède de nos enveloppes corporelles depuis longtemps. Et Foucault n'y voyait qu'un objectif majeur, faire de la population une masse toujours plus apte à produire au service de l'économie. En conclusion, notre ADN ou notre empreinte rétinienne ne nous appartiennent pas plus lorsqu'on les fiche via les nouvelles technologies que nos mains lorsqu'elles sont entravées par les chaînes d'usine.
Moi, je reste définitivement un optimiste. En fait, je trouve ça très positif de se poser ces questions, parce que on peut se dire « Oh là là, mon Dieu, tout ce qui va nous arriver est terrible », mais en fait, le simple fait que ce soit soulevé et que beaucoup de gens intelligents y réfléchissent, ça veut dire que on est plutôt dans une logique qui est celle de mettre les bons garde-fous, d'une part, et puis d'autre part, on en a peu parlé, mais je trouve que tout ce qui est fait sur l'idée que la technologie doit continuer à être un progrès pour tous me semble le bon côté de tout ça, et c'est ce que je pense qui doit nous occuper beaucoup plus que les questions qui sont certes complexes, mais qui voilà, au bout d'un moment, on n'avance plus. Alors, je pense que ce qui fait avancer, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir continuer à faire pour améliorer la vie des gens.
Ouais, il y a certes des problèmes éthiques, mais stocker les données, les prendre, les accumuler, ça permet aussi de soigner des gens. Il y a, avant de violer mon intimité, ça peut aussi servir à guérir des gens.
Il y a deux choses, moi, que je retiens. C'est d'une part, effectivement, il y a un vrai champ autour de la confiance pour les marques. Et j'avais lu notamment qu'on allait peut-être revoir le système de buzz autour des vues, autour du nombre de partages, mais plutôt d'essayer de lier des contenus à la réalité, c'est-à-dire de voir si des contenus sont liés à des expériences dans la vie réelle pour dire voilà, ça c'est des contenus que vous pouvez croire parce qu'elles sont liées à des marques qui ont des magasins par exemple, en physique, donc d'essayer de trouver des systèmes pour dire à l'utilisateur vous pouvez nous faire confiance. Et deuxième chose, tout ça c'est beaucoup de communication, tous les discours, toutes les conférences notamment sur les discours apocalyptiques qui font peur, c'est énormément aussi de mots pour attirer l'attention.
Alors il y a eu les G, les GA, les GAF, les GAFA, c'est les GAFAM maintenant. Est-ce qu'on voit arriver d'autres personnes dans cet acronyme?
Déjà, il y a les BATX côté Chine, ça c'est sûr. Et puis, il y a quand même Netflix, je sais pas comment on va le rajouter dans les GAFAM, mais...
Netflix très fort?
Ah bah oui, Netflix très fort et qui est quand même en train de complètement révolutionner notre rapport au divertissement, la manière de produire des contenus et de les déployer partout et d'individualiser les propositions aux gens. Enfin, c'est une révolution, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est...
Les systèmes de divertissement Amazon et autres, ça prend ou c'est un truc qui...
On attend Disney surtout.
Ah oui, c'est ça, oui.
Disney qui va lancer sa plateforme et qui a toutes les licences Marvel, qui a tous les Star Wars,
qui a Pixar, qui est tout Disney, qui a un catalogue impressionnant.
Qui risque de tuer un peu le game, comme on dit.
Le temps qu'on passe à consommer de façon un peu décérébrée des contenus, finalement, de manière très passive, c'est une question sur l'occupation du temps et sur ce qu'on fait de notre cerveau, qui n'est pas des moindres. Peut-être qu'il faudrait faire une émission là-dessus.
Je rappelle que le patron de Netflix a déclaré que son pire ennemi était le temps de sommeil humain.
Rien sur les podcasts à Austin?
Si, en fait, aux États-Unis, c'est définitivement un format qui explose et dont tout le monde parle comme quelque chose qui est très adapté justement à cette vie qui fait qu'on ne peut pas tout le temps regarder des choses, mais au moins on pourrait tout le temps écouter des contenus. Donc ça va un peu dans le sens de Netflix et de l'ininterruption du divertissement.
D'accord. Qui a vu Avengers?
Pas moi, puisque je n'ai pas vu les 22 précédents.
Moi non plus.
J'ai cru qu'il y en avait 22.
Je ne sais même pas ce que c'est.
Eh ben merci à tous, merci Félix, merci Christophe,
merci.
Merci Olivier, et puis à bientôt.
Voulez-vous en savoir plus?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.